Radio Foot International.
Éric Mamrut.
Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café des Sports, très heureux de vous retrouver. Les verres sont pleins, les gâteaux apéritifs sont là et nos tauliers fin prêts pour évoquer les sujets du jour, à commencer par Xavier Barré, bonjour.
Salut Eric, bonjour à tous.
Philippe Doucet a vu de la lumière, il est rentré, il a bien fait, bonjour, bienvenue.
C'est une bonne idée, non? Bonjour Eric.
Et Jefe Alejandro Valente avec son maté argentin n'a pas voulu manquer le rendez-vous. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Et puis votre pilier de bar préféré est déjà chaud bouillant. Rémi Ngono est avec nous. Bonjour Rémi.
Bonjour, surtout que Jefe m'a abandonné, ou plutôt a démissionné, ou plutôt a signé forfait le week-end dernier, enfin le vendredi
voilà
dernier.
De retour pour la revanche. Que du beau monde donc pour évoquer tout d'abord la saison du Paris Saint-Germain. Peut-on dire qu'elle est ratée alors que le
oui
club va... Ah, on se calme, bon, on va attendre un tout petit peu. Le club va disputer demain son dernier match de championnat qui est responsable de la perte du titre de champion. L'entraîneur, le président, les joueurs, réponse, eh bien tout de suite, dans quelques instants. Direction ensuite l'Espagne où c'est également ce week-end le dénouement de la Liga. Le FC Barcelone va-t-il perdre la couronne qu'il détient depuis deux saisons? Le Real Madrid n'a besoin que d'un petit point pour la lui chipper alors que le Barça joue contre Eibar. Y croit-on toujours du côté des Ramblas catalanes ou pense-t-on déjà au futur entraîneur, celui qui va remplacer Luis Enrique la saison prochaine? La polémique de la semaine nous vient d'Allemagne où Joachim Löw a annoncé qu'il alignerait une équipe B à la prochaine Coupe des Confédérations le mois prochain en Russie. La compétition sans la majorité des champions du monde s'en trouve-t-elle dévaluée? Mais au fait, cette Coupe des Confédérations a-t-elle encore un intérêt? Le Cameroun, en tout cas, la jouera avec quasiment tous ses champions d'Afrique. Gros plan enfin sur la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui débute demain en Corée du Sud. 24 équipes au départ, la France, mais aussi 4 formations africaines, la Zambie, le Sénégal, la Guinée et l'Afrique du Sud. Nous dresserons la liste des favoris de cette épreuve. Et puis on n'oublie pas les traditionnels cartons que nous attribuerons en fin d'émission. Radio Foot préparé avec Louis Lafargue et avec Guillaume Ploquin aux manettes. C'est parti.
Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tenu. Paris, Paris, perdu. Paris, tu m'as laissé sur ton pavé.
Paris perdu pour Paris. Après 4 années de domination sans partage, le Paris Saint-Germain a cédé son titre de champion de France. Les cotillons, la fête, l'hexagone sont cette fois pour l'AS Monaco. Le PSG, lui, doit se contenter de la deuxième place du championnat de la Coupe de la Ligue qu'il a remporté début avril et peut-être de la Coupe de France dont il disputera la semaine prochaine la finale au Stade de France face à Angers. Pour Unai Emery, en tout cas, l'entraîneur parisien, cette perte de la couronne de champion est bel et bien un échec, il l'a dit tout à l'heure en conférence de presse.
Félicitations pour Monaco parce qu'il a fait une grande saison. Il a mérité être le champion de ce championnat. Après, nous, c'est vrai qu'il n'a pas maintenu cette rivalité toute la saison. C'est sûr qu'aujourd'hui, les points que nous avons dans le championnat, normalement, c'est pour gagner le championnat, mais cette année, notre équipe, il a fait mieux. C'est vrai, c'est clair que pour nous, le championnat, c'est un objectif pour gagner, qui n'est pas faire.
Le manque de régularité cette saison pointée par Unai Emery, le PSG donc déchu, le PSG par ailleurs éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le FC Barcelone, autre objectif du club. Alors, Rémi, saison ratée? Oui.
J'ai dit 100% ratée.
100% carrément.
100% raté parce que
c'est dur.
Et si on constate quand même que c'est une équipe qui, faut-il le dire, sortait des 4 quarts de finale de Ligue des Champions et qui tombe directement en 8e de finale et de la façon la plus humiliante, parce qu'il faut quand même se dire que
après
Laurent Blanc
un superbe 4-0
sans pour autre, mais sachez que le même PSG avait été éliminé à l'époque de Laurent Blanc après avoir battu le Barça 3-1 et puis 2-0 au retour.
Quand même.
Mais 2-0 seulement au retour. Donc, c'est-à-dire que ça s'est joué justement rien que sur le goal average, donc le but à l'extérieur. Donc, ce PSG, et on le voyait, il y avait quand même un certain fond de jeu. Soit dit en passant, si le PSG avait d'ailleurs battu le Barça à ce niveau-là, c'est parce que le Barça n'avait carrément pas existé, n'avait pas joué. Mais quand le Barça a voulu jouer, on a vu ce que ça a donné. Maintenant, quand on essaie de regarder, c'est-à-dire que échec en Ligue des Champions, le championnat qui était totalement un abonnement tout risque,
depuis 4 ans,
subitement il tombe. Le comble, c'est que lorsqu'on regarde le contenu de ce championnat, on se dit même que PSG s'en sort bien parce qu'il mériterait même la 3e place, parce que si Nice aurait été régulier, eh bien Nice aurait mérité la première, la deuxième position. Il faut quand même se dire que ce soit à la première partie de la saison, PSG n'était pas champion, c'est-à-dire que c'était Nice. Et maintenant, à la deuxième partie de la saison, ce n'est non plus le PSG, d'autant plus que le PSG, ne serait-ce que lorsque vous essayez de regarder un certain contenu des matchs, tels que la victoire contre Dijon, 3-1, vous dites comment est-ce qu'ils ont fait pour gagner Dijon. Et quand vous regardez le match contre Lille, c'est à la dernière seconde, un but sur hors-jeu, vous vous dites, ce PSG-là s'en sort très très bien, mais ce PSG n'avait pas de niveau, malgré le fait que les niveaux financiers ont été surélevés.
Alors reste que le Paris Saint-Germain, s'il gagne demain face à Caen, c'est son dernier match de championnat, peut égaler, voire faire mieux au niveau comptable, au niveau des points, que sur les saisons 2013, 2014, 2015, c'est-à-dire année avec un titre au bout. Donc au niveau comptable, c'est...
Moi j'ai l'impression qu'on n'a pas vu toujours les mêmes matchs avec Rémy N'Gono du PSG cette saison. Moi je suis au Parc des Princes à tous les matchs, et il y a des rencontres où le PSG a largement dominé son sujet. Et quand il dit qu'il aurait pu terminer troisième, contre Nice, ils font effectivement que match nul ici, mais ils doivent gagner 100 fois. Effectivement, c'est là où le PSG cette saison a pêché, c'est dans les grands matchs. Ils ont perdu des points face à Nice, face à Monaco. Donc ils auraient dû être champions, faut le dire franchement, au niveau de l'effectif, ils sont largement au-dessus. Monaco a fait une saison fantastique, mais on a vu qu'il y a des moments où ils ont un peu plafonné. Le PSG a raté ses grands rendez-vous. Donc il est logiquement puni, et là-dessus je suis d'accord avec Rémy N'Gono, ça arrive rarement, donc je le signale. Effectivement, il est sanctionné, il n'a pas ce titre de champion, mais sur le reste, il faut pas dire que tout est nul. Le PSG l'a d'ailleurs prouvé lors de la Coupe de la Ligue, ils ont surclassé Monaco en finale, ils vont remporter aussi la Coupe de France. Et ils ont raté des rendez-vous importantissimes, notamment le retour à Barcelone, notamment le match à Monaco en championnat, un match contre Nice au Parc, et encore ils l'ont pas vraiment raté parce que Nice en est bien tiré, mais il y a eu résultat nul. Donc il y a eu 3-4 grands rendez-vous cette saison qu'ils ont pas bien négocié. Du coup, eh bien, on a l'impression que c'est une saison ratée, alors que, comme vous le rappelez, au niveau des points, par exemple, ils sont encore très hauts.
Ah non, pas au niveau des points.
Si, c'est quasiment le record de points pour le PSG.
Non, c'est pas...
96 points l'an dernier.
96 points l'an dernier. Non, ils auront combien cette
89
année
89 s'ils gagnent demain.
Voilà, 89.
Ce serait leur deuxième
L'année dernière, c'était 96 points. C'est-à-dire
c'était
que
le record.
C'est ce qu'on vient de dire, c'est le record.
Cela veut dire qu'il leur manquera minimum au moins 7 points.
Oui, s'ils gagnent, 7 points sur le record.
S'ils gagnent.
Pas sur une saison normale.
S'ils gagnent, soit dit, il faut aussi préciser, Philippe, que en même temps, le PSG a été renforcé avec l'arrivée, par exemple, pas seulement du nouvel entraîneur, mais il y a eu Draxler qui est venu.
En janvier.
Janvier. Oui, il y a Draxler qui est venu, mais n'oublions pas aussi qu'il y avait déjà quelqu'un comme Di Maria qui était là, et qu'on est venu, par exemple, avec Krikoviak, qu'on nous a présenté comme le remplaçant de Matuidi, et qui n'a même pas joué. On a quand même pris Ben Arfa, qui est resté totalement au banc. Donc, on a dépensé de l'argent pour rien, parce que tu ne vas pas me dire que ce PSG n'a pas eu à recruter. Ils se sont renforcés, donc que ce soit gratuitement ou n'importe comment, ils se sont renforcés, mais se retrouver avec 7 points de moins que la saison dernière, c'est terrible, d'autant plus que Monaco n'a pas autant recruté qu'on peut le croire.
Alors Philippe, si on doit pointer les responsables, s'il y en a, où ça se situe au niveau du recrutement,
Au niveau du recrutement, il y a eu des erreurs évidemment.
Ouais.
La première, c'est que le PSG ne s'est pas renforcé, contrairement à ce que dit Rémy, c'est-à-dire globalement, ils ont perdu deux joueurs très importants, enfin en tout cas qui étaient des vrais titulaires, en l'occurrence Ibrahimovic, qui n'est pas le moindre des joueurs des quatre dernières années, et David Luiz, qui n'ont absolument pas remplacé, c'est-à-dire quantitativement, ils ont eu de la chance de pas avoir de problème avec Cavani, ils ont eu plutôt de la chance de pas avoir des problèmes majeurs en défense centrale, parce qu'en plus, ils n'avaient pas un effectif qui les situait dans ce qu'on appelle les grandes Europes, capables de gagner une chose.
Enfin, donc ça, c'était la première erreur. De Cavani, et ça a marché.
Donc, oui, d'accord, mais enfin.
Comme remplaçant, entre guillemets, d'Ibrahimovic.
Non, c'est pas un remplaçant, Cavani.
Enfin,
il a
pris la place parfaitement bien, quoi.
Tout à fait. Mais il aurait été blessé, on aurait fait comment? Dans une équipe où il y a un joueur qui aime marquer dans cette équipe. Il y a un joueur qui aime marquer, aucun autre. Aucun autre ne marque des buts. C'est quand même un vrai risque.
C'était un peu le cas aussi avant, parce que Zlatan est monté tout le jeu. Cavani, oui, on est d'accord. Mais Cavani, comme tu dis, c'était mieux qu'un remplaçant. En fait, le jeu du PSG, aimanté par Zlatan, vampirisé par Zlatan, faisait que Cavani ne pouvait pas s'exprimer.
Certes,
là, il s'est plutôt bien exprimé.
Mais il marquait 20 buts quand même.
Oui.
Alors que là le deuxième buteur, faut aller le chercher hein, derrière Cavani. Hein, parce que...
Oui, c'est Lucas, je crois.
Oui, ça doit être Lucas. Mais, c'est une référence.
Donc, au niveau du recrutement, comment ça se passe ou Unai Emery, parce que c'était le pari, l'autre pari aussi, changer d'entraîneur.
Trop de tâtonnements, évidemment, dans le recrutement. Pour finir quand même, les recrutements d'Emery, c'est Krikoviak, Ressé. Deux échecs complets.
Ouais.
Complet, donc il s'est trompé là-dessus aussi. Il s'est trompé un certain nombre de fois dans le début de saison, mais ça, à la limite qu'un entraîneur qui arrive veuille mettre sa patte, on peut le comprendre.
Il a voulu imposer un style très offensif, Alejandro. Et puis les cadres lui ont
dit... C'est vous qui le dites.
Non, au départ, dès le
début.
Avec
de la contre-attaque, c'est pas super offensif.
Enfin bon, il a changé un petit peu le style. Et puis très vite, les cadres lui ont dit, Coco, on fait comme avant.
Il a voulu, en fait, rompre avec la logique de la possession chère à Laurent Blanc pour un jeu plus vertical. Ça s'est plus ou moins bien passé. Mais je pense que ce qui s'est passé cette année avec le PSG, c'est peut-être une crise des croissances. C'est-à-dire, on voulait monter très vite un grand club et tout d'un coup, on a vu que les fondations n'étaient pas aussi solides qu'on pouvait les imaginer. Il n'y a pas de vraie direction sportive depuis le départ de Leonardo, quoi qu'on en dise.
Et ça, c'est la faute du président, justement, de Patrick Kluivert, le directeur sportif.
C'est la faute des patrons, des propriétaires du club qui n'ont pas probablement bien construit toute cette architecture qui aurait permis quand même une montée en puissance et peut-être un recrutement plus judicieux parce qu'il y a eu quand même des erreurs de recrutement qui sont assez importantes.
Je suis pas d'accord avec cette histoire de recrutement parce que je crois quand même que Marseille nous a joué un quart de finale avec un attaquant à la pointe qu'on appelait Brandao, vous rendez-vous compte, un catcheur. Il était avant-centre de Marseille. On me dit aujourd'hui qu'il y a eu erreur de recrutement lorsque vous avez Di Maria qui brillait au niveau du Real et qu'on a retrouvé justement là, lorsque vous avez Lucas qu'on nous a présenté.
Non mais Rémi, vous mélangez tout. Ce sont des joueurs qui étaient là avant. Là, quand on parle de recrutement, on parle de recrutement cette année.
Il fallait quoi? Quand moi je regarde le recrutement de Chelsea par exemple, vous me dites par exemple que Marquinhos c'est un très bon défenseur parce que vous n'allez pas me dire aujourd'hui que David Luiz c'était un titulaire indiscutable, d'autant plus que quand il était à Paris, on nous disait que oh non, c'est plutôt, il est vraiment un milieu défensif, ça ne vaut rien par derrière. Donc, à une certaine période, soyons sûrs, autrement dit, le PSG ne le vendait pas. Mais il est reparti et on a vu, par exemple, que le Chelsea n'a pas eu à recruter autant, mais une équipe
juste une chose, à Chelsea, pour être sûr que David Luiz soit bon, on a mis deux défenseurs à côté de lui.
Il
joue avec une défense à trois. Hein.
Avec donc le même effectif, le PSG a réussi à avoir 96 points. Le même effectif renforcé maintenant.
Non, le même effectif, non. Il n'y a pas Ibrahimovic, il n'y a pas David Luiz.
Attendez,
c'est toi qui viens de le dire en plus. Donc tu te prends les pieds dans tes propres arguments.
Je t'ai dit justement que David Luiz n'était pas le titulaire indiscutable qu'on peut le dire.
Mais il était là quand même.
C'est quand même lui qui jouait. Ce qui ressemble à être un titulaire. Enfin, ça ressemble à eux.
Mais on me dit que Marquinhos c'est le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain. On me dit que Marquinhos c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain.
Le PSG le faisait pas jouer.
C'est vrai qu'au niveau du PSG, il y a une carence au niveau de la gouvernance, parce qu'il y a eu beaucoup de chefs, et puis finalement, on ne sait pas exactement qui fait quoi. D'ailleurs, Olivier Létan, qui était directeur sportif adjoint, a quitté le navire récemment. Kluivert est arrivé, il est très bien dans son rôle de représentation, mais il semble moins efficace pour ce qui est du recrutement. Quand un entraîneur arrive, c'est assez courant qu'on lui donne la possibilité de faire venir quelques joueurs à lui. Et où Emery, visiblement, en faisant venir Krikoviak et Philippe le rappelait, Ressé Rodriguez, qui est depuis reparti en Espagne, eh bien, il a pas fait les bonnes pioches. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a des carences. Mais quand on part avec l'acquis qu'avait le PSG, normalement, c'est pas deux recrues insuffisantes qui doivent faire rater une saison.
Voilà.
Donc,
Monaco. C'est quand même Monaco, parce que l'an dernier, le PSG a fini avec 31 points d'avance. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun adversaire.
L'année dernière, tout le monde a raté. Monaco.
Cette année, il y a eu deux adversaires qui ont fait des très bons
parcours. Monaco était déjà là, par exemple, en 2014 il y avait les Falcao, il y avait les James Rodriguez. Mais que ce soit à la première partie de la saison ou à la deuxième partie, le PSG était au-dessus alors qu'ils avaient un meilleur effectif que celui de maintenant. J'ai dit bien qu'il y avait le grand Falcao avec les James Rodriguez. C'était une équipe solide. Mais aujourd'hui, moi, j'ai dit, le premier défaut, il faut qu'on le reconnaisse.
Falcao s'était blessé assez rapidement.
Il faut qu'on se le dise. disent aujourd'hui,
plus fort cette année qu'il y a
comme
ans,
se le disent aujourd'hui, le PSG a raté un seul recrutement. C'est celui de l'entraîneur.
Ah, je voilà. Crois qu'est-ce que Unai Emery, Philippe, a apporté de plus ou pas par rapport à Laurent Blanc?
Non, concrètement, il n'a rien apporté. Il a fait la preuve, en tout cas à court terme, qu'il n'avait rien apporté. Lui-même a été de renoncement en renoncement. Parce qu'au début, il a commencé à essayer de changer pas mal de choses. Le style de jeu, le type des joueurs qu'il alignait. Puis à un moment, quand tout d'un coup, les tauliers ont tapé sur la table, il a dit, bon, bah alors, finalement, on met Mota, Verratti, Matuidi au milieu. Puis et puis on joue comme avant. Puis voilà, terminé. Donc il s'est écrasé parce qu'il a vu sa place. Il a vu le moment où sa place allait sauter. Il y a eu 8 matchs importants cette saison. 8 gros matchs contre des gros adversaires. Arsenal, Barcelone, Nice et Monaco. Une victoire. Ouais. Ça prouve que, en creux, ça prouve que le PSG n'a pas été dans les grands rendez-vous. Donc il y a eu des failles, très certainement, mentales et autres. Et l'entraîneur en fait partie.
Alors, c'est peut-être pour ça que Thiago Motta, l'un des cadres du Paris Saint-Germain, eh bien, lui affirme que, eh bien, il a totalement confiance en son entraîneur, Unai Emery. Écoutez-le.
Il a la confiance de tout le monde à l'intérieur de le club, des joueurs, que c'est les choses plus importantes, je trouve. Mais bon, c'est difficile de comparer, faire la comparaison entre lui et Blanc. Chacun y a les points positifs, les points moins positifs. Chacun y a son philosophie de travail, son idée de football. Je pense que Unai, depuis qu'il est arrivé ici, il a réussi à transmettre cette idée de football offensive vers l'avant, en gardant aussi notre potentiel qu'on a créé, ça fait 5 ans. On a amélioré beaucoup de choses, on peut continuer à grandir comme équipe, comme collective. Et les joueurs, nous sommes très contents d'avoir un entraîneur de cette expérience, un entraîneur qui donne toujours cette passion pour le club, pour l'équipe, et essayer de travailler au maximum 100%.
Xavier, vous n'avez pas l'air très convaincu par le discours.
Thiago Motta, moi je le vois en zone mixte presque après chaque match. Thiago Motta est un très fin politique. Il arrive à faire passer des messages. Faut pas oublier qu'il est en fin de contrat. Donc là, il négocie une nouvelle prolongation avec un très bon salaire. Et surtout, c'est lui le patron du vestiaire, surtout depuis le départ de Zlatan. C'est lui avec Thiago Silva. Oui. Donc, s'il y a un entraîneur, qui est nouveau, qui arrive, qui va vouloir rajeunir, comme a essayé Unai Emery au début, il va être contesté, il va être mis en difficulté. Si en revanche, eh ben, on maintient Unai Emery, eh ben, c'est lui qui continuera à faire l'équipe.
Donc ce sont les joueurs, les cadres qui font la loi PSG alors ?
Bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais ça on le sait depuis le début. Ça c'est la responsabilité du club. Pour résumer tout, le PSG n'a jamais été un club de foot, ça ne l'est toujours pas. Ça a toujours été un club un peu de paillettes, un peu assez extraordinaire d'ailleurs par moments. Il y a eu des moments de l'histoire du PSG qui étaient formidables, mais ça n'a jamais été un club qui a respiré vraiment le football.
Puis même à l'époque de Laurent Blanc, on voyait les joueurs le mépriser, même à toutes les bonnes époques.
Il y a eu des bonnes époques, l'époque Canal et etc. Mais c'est un club qui a toujours été un petit peu paillettes, un petit peu. Ça n'a rien à voir. Le PSG n'a rien à voir avec
mais
le Barça.
Mais ce projet du Qatar, alors ne vaut rien finalement.
C'est un projet d'argent.
Il valait surtout par Leonardo, faut reconnaître. Leonardo a été habile quand il a constitué cet effectif. Quand il est arrivé en 2011, il a commencé par recruter tous les joueurs, d'abord en Italie parce qu'il connaissait bien ce marché. Il a pris les bons joueurs pour les mettre aux bonnes places. Il a monté un effectif qui tient la route pour 4-5 saisons parce qu'il y a quand même quelques joueurs un peu vieillissants. Mais aujourd'hui, comme il a dû partir dans les raisons qu'on en sait, il n'y a personne vraiment pour prendre le relais.
On me parle tout le temps des joueurs vieillissants, mais ils sont quand même, quand ils étaient là, on a dit qu'ils manquaient d'expérience. Mais sauf que j'étais quand même surpris que quand on faisait au total des joueurs du Real qui avaient remporté la Ligue des Champions, on se rend compte qu'ils étaient à 381 matchs de Ligue des Champions. Ceux du PSG étaient à 481. Mais on disait qu'ils étaient jeunes. Maintenant, on dit qu'ils sont vieux. À quel moment ils sont passés à la maturité? Donc aujourd'hui, moi, j'ai dit jusqu'à présent, Unai Emery, même comme Thiago est en train de me raconter des choses là, moi, j'ai ni le football offensif n'est là parce que avec Laurent Blanc, on avait 126 buts inscrits en une saison. Ce que je ne vois pas maintenant, c'est Monaco qui marque des buts. Sur le plan défensif, c'est un peu Laurent Blanc, pour l'instant, avait un système de jeu net, clair, comme tout le monde pouvait déterminer. Et on est malheureusement parti prendre quelqu'un qui n'a pas un système de jeu, comme l'on dit en proverbe africain. Eh bien, le con a fui la rosée pour aller tomber dans la mer.
Oui, mais Laurent Blanc n'était pas plus respecté que ne l'est Unai Emery. En fait, le seul entraîneur qui ait inspiré un peu de respect, c'était Ancelotti. Et je pense qu'on en est très, très loin aujourd'hui.
Paris Saint-Germain-Caen, donc demain, 21h, heure française, dernier match du Paris Saint-Germain. Ce sera au Parc des Princes. On se retrouve dans 3 minutes pour parler notamment de la Ligue. A tout de suite.
Radio Foot International.
Éric Mamrut.
Le Café des Sports avec toujours en notre compagnie Xavier Barré, Philippe Doucet, Alejandro Valente et Rémi Gonneau, direction l'Espagne pour entamer cette deuxième partie. Oui, ça pourrait faire mal pour le Barça ce week-end. Le double tenant du titre de la Liga risque de perdre sa couronne. Tout se joue lors de la dernière journée, dimanche, avec le duel à distance avec le Real Madrid. L'équipe de Zinedine Zidane n'a besoin que d'un point à Malaga pour retrouver un titre de champion qui lui échappe depuis 5 ans. Le FC Barcelone, lui, devra gagner contre Eibar à Bernabeu pour espérer... Pour espérer que son grand rival perde son dernier match. Alejandro Valente, est-ce qu'on y croit encore du côté des Ramblas?
Il faudrait y croire, je pense, parce qu'on a déjà vu des situations aussi complexes se résoudre favorablement, mais j'ai l'impression qu'on n'y croit plus trop. Déjà, on peut s'étonner qu'à la veille d'une journée décisive, Luis Enrique ait accordé 3 jours de repos à ses joueurs, qu'on a vu en vadrouille à Londres ou partout ailleurs, faisant des achats, du shopping,
etc. Ils sont déjà en vacances.
Donc, on avait quand même les sentiments ces derniers jours qu'ils n'étaient pas trop concentrés, ni trop, qu'ils n'y croyaient pas vraiment à un exploit de Malaga. C'est vrai que... bon, le match de mercredi contre le Celta a fini par étouffer les espoirs qui pouvaient régner, d'autant que on a vu quand même la commission de discipline qui a permis à Nacho de jouer en enlevant un carton jaune au dernier moment.
Il a joué.
Enfin, il a permis à Nacho.
Il n'a pas joué.
Il a eu l'expulsion d'un joueur du Celta Vigo.
Ah, c'est un scandale. Ça.
Assez scandaleuse.
Mais il n'a pas joué. Voilà. En revanche,
Iago Aspas a bien été expulsé alors que c'est lui qui est victime d'une faute de Sergio Ramos dans la surface de réparation. L'arbitre ne siffle même pas pénalty et il expulse Iago Aspas pour simulation. Donc on aura tout vu effectivement pour que le Real soit champion cette saison.
Rémi, vous avez déjà mis le champagne au frais.
Je voudrais quand même dire à Xavier Barré que à l'instant dont il parle, je crois que le Real était en train de mener et que peut-être
non, mais ça,
il n'a pas vu.
C'est du passé,
et peut-être
ça.
N'a pas vu le pénalty non sifflé sur Ronaldo. Wow. Bon, voilà. Passons ce côté-là.
Voilà.
Une chose est sûre, c'est que depuis que Zinedine Zidane est là, exactement, ça me fait rebondir sur le premier débat qu'on a eu à la première mi-temps. C'est que depuis qu'il est là, il a déjà gagné 2. Voilà la troisième mi-temps. Depuis qu'il est là. Parce que quand il prend.
Je croyais
quand même,
qu'on allait parler du Barça.
Voilà. Parce que aujourd'hui, c'est-à-dire que, bon, vous voulez que je parle du Barça? Oui, le Barça a souvent gagné grâce au Real. C'est-à-dire que quand vous regardez 92, 93, 92, 93.
Oh là, ça remonte à l'heure, tout ça.
Oh oui, mais c'est le Real qui perd à la dernière journée.
Oui,
et
oui, c'est
le Barça qui remporte. Et de surcroît, qu'est-ce qui se passe justement? C'est-à-dire que dans la fausse histoire, dans cette histoire très douloureuse, c'est que justement, les clubs qui font perdre la couronne au Real, c'est qui? C'est des clubs qui était entraîné par Jorge Valdano, un ancien monument du Real.
Non, c'est lui qui fait perdre. Vous voulez nous dire que le Real va perdre à Malaga, c'est ça?
Non, vous dites Michel. Aujourd'hui, vous
dites
aujourd'hui
Michel,
que Michel est l'entraîneur,
voilà.
Mais donc
non, l'ancien du Real.
Mais Michel, Real, le problème, c'est Michel, même s'il est motivé, gagner un match pour Michel, c'est un vrai problème.
Enfin,
il
a beaucoup de mal. Il a battu Barcelone, il a battu l'Atlético ces dernières semaines.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ils sont
11e
au classement, mais
ils ont fait une série.
Donc, je me dis, c'est pas encore dans la marmite, mais cependant, une chose peut quand même nous dire aussi que, selon les statistiques, c'est-à-dire que la 30e Liga remportée par le Real, c'était dans les mêmes conditions à la dernière journée aussi, bien sûr, et on attendait, parce que le Real était devant, eh bien, le Real a réussi à remporter à la dernière minute avec un but de Reyes. Donc, aujourd'hui, moi, je suis sûr, à 90%, c'est vrai que les statistiques disent que c'est 89%, je suis même sûr à 99% que le Real a déjà remporté.
Alors non, parce si, que peut-être que Rémy Ngono siège à la commission des arbitres.
C'est possible. Que, c'est possible.
Ouais, il a peut-être.
Il a la tête pour ça. En tout
ouais,
cas.
Ouais, alors ouais, pour le Barça, que... parce qu'on va revenir sur le Barça.
Si il a du mal avec l'autorité.
C'est pour les arbitres.
Je pense pas qu'il aime les arbitres.
Quel est le club qui a bénéficié de plus de pénalties depuis la saison dernière?
On en parlera plus tard. Le Barça, s'il arrivait finalement à perdre ce titre qu'il détient depuis 2 ans, ce que on pourrait à ce moment-là parler de saison ratée aussi pour eux.
En tout cas, oui, c'est forcément un échec.
Éliminé en quart de finale de Ligue des Champions.
Oui, c'est une saison d'échec. Le Barça a été très vite un peu en difficulté, un peu moyen. Il s'est relevé, je trouve qu'il s'est plutôt relevé sur la fin de saison, paradoxalement. Même quand ils ont été éliminés par la Juve, c'était plutôt le moment où ils étaient le mieux. Mais c'est un Barça qui a été très moyen au long de l'année.
Surtout moyen face aux faibles, parce que si on regarde, ils ont battu, enfin ils ont dominé le Real, ils ont dominé l'Atlético, ils ont dominé Séville, mais ils ont perdu beaucoup de matchs face à des équipes de bas du classement. Et il y a un mois, ils avaient la possibilité d'être champions, puisque avant la défaite face à Malaga, Barcelone avait tous les atouts pour être champion.
Mais ils ont été beaucoup trop moyens.
Voilà.
Beaucoup trop
quatre défaites en même temps seulement. Quatre défaites contre cinq l'an dernier, alors qu'ils ont été sacrés champions l'an dernier.
Face à des défaites franchement étranges et face à des équipes plus faibles. Et puis il y a eu pas mal de matchs nuls aussi.
Ouais. Ils pourraient obtenir, en cas de succès contre Eibar, 90 points. Et l'an dernier, alors qu'ils étaient champions, ils en avaient eu 91.
C'est vrai que...
Bon, ça se joue pas à grand-chose non plus, quoi. Donc, quoi la différence d'une saison à l'autre ?
L'année dernière, il y avait un vrai contraste. C'est-à-dire qu'ils avaient d'abord dominé totalement la compétition, jusqu'en février, mars à peu près. Et puis, ils avaient eu un trou d'air, ils avaient perdu trois matchs de suite.
Quelque chose de tout à fait incroyable.
Donc, le Real de Zidane était revenu à cette faveur-là. Mais bon, le Barça avait su assurer les 5-6 dernières victoires nécessaires, comme le Real va le faire cette fois-ci. Le Real voit le Barça juste derrière et il remporte régulièrement toutes les victoires qu'il faut, comme le Barça l'a fait l'année dernière. Il n'y aura plus d'histoire comme Tenerife 92-93. C'est terminé. Aujourd'hui, les écarts sont tellement gigantesques. L'effet de Bosman, Cotonou, Malaga et autres ont fait qu'aujourd'hui le budget du Real et celui de Malaga, c'est 6-7 fois, 6-7-8 fois plus pour le Real Madrid.
Il n'y a pas de question.
Sur
Malaga-là, quand ce Malaga-là battait le Barça,
il
y avait le même
écart. Ça peut arriver, mais pas à la 38e journée.
Là, il n'y aura pas de match. Hein, c'est un match. Bon.
Mais pas à la 38e journée.
Une chose est sûre.
Soyons sérieux.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le Real de cette année, et de toutes les façons, le Real de Zidane, est très très fort, et c'est sur ça ce que je voulais venir, que le Barça quand même, il ne faut pas se dire qu'ils se sont loupés, non. C'est-à-dire qu'avec Benitez, le Real était pratiquement en train de jouer la Ligue Europa, mais parce qu'ils n'avaient que 37 points. Avec Zinedine Zidane, ils ont pris 53 points, et du coup, c'est Barça qui était troisième hein, au classement. Donc, le Real était quand même troisième. Donc, aujourd'hui,
L'année dernière, il y avait l'Atlético qui jouait le titre. Pas cette année.
Même cette année, l'Atlético a joué, mais sauf que l'Atlético a été écrasé par le Real, peut-être. Et aujourd'hui, quand on essaie de regarder un certain nombre de choses, on se rend compte que, moi, je le dis, le Real est beaucoup plus constant que toutes les équipes et surtout,
Dans les confrontations directes entre les deux, c'est quand même le Barça qui est sorti vainqueur, puisqu'ils ont gagné à Madrid 3-2 alors qu'ils avaient fait match nul au Camp Nou. Donc ensuite, quand on regarde la différence à l'arrivée, ce sera 3 points. Ces 3 points,
voire
c'est effectivement
un point, peut-être
même qu'un seul point, c'est effectivement la défaite du Barça à Vigo sous la pluie
l'année dernière, c'était un point. C'est
la défaite à Malaga où le Real devrait gagner ce week-end ou en tout cas pas perdre pour assurer son titre. Donc effectivement, il y a quelques sautes d'humeur du Barça qui font qu'ils vont rater le titre, mais dire de là que le Real est bien
pourquoi
meilleur.
Pourquoi ils n'ont pas battu Malaga maintenant vous du trouvez coup, que
non, ils ont raté un ou deux rendez-vous. Bon, aujourd'hui en Liga, effectivement, comme le disait Philippe, il y a un tel niveau entre les équipes les plus fortes et les autres que la moindre faux pas, tout de suite, t'as l'adversaire qui s'en va.
Du coup, Alejandro, est-ce qu'il faut changer des choses en vue de la saison prochaine ?
Déjà, on va changer d'entraîneur, ça c'est certain. Il semble acquis que Ernesto Valverde va être nommé d'ici la fin du mois, après la finale de la Coupe du Roi face à l'Alavés.
Entraîneur de Bilbao ?
entraîneur de Bilbao, ancien joueur de Barcelone, dont on se souvient pas beaucoup parce qu'il était souvent blessé à l'époque où il jouait à Barcelone, mais un bon entraîneur, respecté, et voilà, on a pu imaginer que quelqu'un d'autre pourrait arriver de l'étranger, mais finalement ce sera lui. Et il y a des changements à attendre, notamment sur les côtés. Il faudrait recruter un arrière droit des qualités, un milieu de terrain des qualités. On pense évidemment à Verratti, mais si Verratti n'était pas possible, on pourrait imaginer d'autres solutions, y compris Jean-Michel Seri, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci du côté de Barcelone aussi. Voilà, absolument. Et puis voilà, et un arrière gauche, sans doute si Jordi Alba était amené à partir, comme c'est possible.
Le dénouement, l'épilogue donc de cette Liga, 38e journée ce week-end avec dimanche les deux matchs phares, Barcelone-Eibar et Malaga-Real Madrid, c'est à 18h temps universel. Dans moins d'un mois débutera en Russie la 10e Coupe des Confédérations, sorte de répétition en miniature de la Coupe du Monde. Un an avant, 8 équipes vont y participer. Les champions des 6 confédérations, le Chili, l'Australie, le Mexique, le Portugal, le Cameroun et la Nouvelle-Zélande. Plus la Russie, évidemment, pays organisateur, et le champion du monde en titre, en l'occurrence, l'Allemagne. Mais une formation germanique bien éloignée de celle qui s'était imposée au Brésil il y a 3 ans, puisque Joachim Löw, avant-hier, le sélectionneur, a décidé, il a annoncé d'aligner son équipe B. Place aux jeunes, a-t-il dit. Les cadres seront ménagés à l'image des Neuer, Boateng, Hummels, Kroos, Kedira, Ozil, Götze, Müller. Ils ne seront pas là. Il n'y aura en fait que 3 champions du monde 2014 sur les pelouses russes, Draxler, Ginter et Mustafi. Écoutez les explications de Joachim Löw.
Il ne faut pas trop tirer sur le fil. L'objectif numéro 1, c'est la Coupe du Monde l'an prochain. Je vois certains de nos joueurs qui jouent tous les 3 jours. Ceux qui ont déjà prouvé leur aptitude à jouer de grands tournois ont droit à une pause. 3 tournois en 3 ans, c'est limite. Nous arriverons avec un effectif d'avenir en Coupe des Confédérations, avec des joueurs qui ont fait leur preuve en Bundesliga. Ils doivent se familiariser avec nos méthodes et nos idées. Si nous n'en amenons même que 2 ou 3 au niveau supérieur, au niveau mondial, je serai absolument heureux.
Alors, qui comprend cette démarche de Joachim Löw, ou alors, au contraire, vous êtes choqué?
Moi, je la comprends et je la partage parce que je trouve qu'il a tout à fait raison. Cette Coupe des Confédérations n'a aucun intérêt sportif à mes yeux. C'est le seul intérêt quand ça a été créé, c'était de permettre aux pays organisateurs d'une Coupe du Monde de faire une sorte de test grandeur nature un an plus tôt. Alors pour faire un test, on n'a pas besoin d'avoir tous les joueurs de l'équipe type. Et c'est vrai que pour une équipe comme l'Allemagne, la Coupe du Monde est un objectif beaucoup plus important que la Coupe des Confédérations. Après, il y aura d'autres équipes qui vont essayer de la gagner parce que pour elles, c'est beaucoup plus important. Le Portugal, le Chili, le Cameroun n'ont pas l'habitude de disputer des titres de très haut niveau et du coup pour eux ça va être une occasion d'asseoir quelque chose avant la Coupe du Monde, mais pour l'Allemagne c'est tout à fait logique.
Mais Philippe, ça peut pas permettre à une équipe comme l'Allemagne de préparer cette Coupe du Monde un an avant.
Je pense que justement il a voulu, moi j'approuve pas en général, j'aime pas en général les entraîneurs qui ne mettent pas les meilleurs joueurs, mais là je reconnais que on l'a vu avec, par exemple, Messi, 2014, Coupe du Monde, 2015, Copa América, 2016, Copa América. 3 étés, y a pas de le joueur n'a pas de vacances, encore ça va, Messi il joue en Espagne, donc le championnat commence plus tard, mais c'est des joueurs qui n'ont jamais de vacances, et au bout d'un moment, ils craquent, et ils ont des blessures, ils ont des problèmes, etc. Et c'est, les Allemands, c'est ce qu'ils vont avoir. 2016, l'Euro, s'ils font la Coupe des Confédérations et la Coupe du Monde dans l'enchaînement, peut-être que c'est en juin prochain qu'ils sont cuits. Donc là, je le comprends, parce que l'épreuve, en plus, n'a pas vraiment pris pour l'instant, elle a pas ce caractère de Coupe du,
elle existe depuis 92.
Elle prend pas vraiment sa place, un peu comme la Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'il y a une vraie réflexion au niveau de la FIFA à avoir, parce que les dates sont rares et on obstrue le calendrier de manière parfois un peu abusive et difficile. Je pense que leur effet a tout dit. Ça a un grand intérêt pour le pays organisateur, voir si les stades sont prêts, si l'organisation est prête.
Même si
on est capable de jouer
sur 4 stades contre
12. Oui, parce que les autres sont pas forcément finis en plus. Mais au-delà de ça, franchement, l'intérêt sportif, il est faible.
Si on remonte l'histoire, cette Coupe des Confédérations qui est née en 92, en fait, c'était au départ le tournoi du roi Fahd en Arabie Saoudite. Et il y avait d'ailleurs que 4 champions internationaux et pas l'Europe.
On l'appelait Mundialito, petite Coupe du Monde.
Et ensuite, en 95, on a fait venir le Danemark qui est venu là en tant que champion d'Europe parce qu'il avait, comme lot de consolation, parce qu'il avait raté la qualification pour la Coupe du Monde 94. Donc, il s'est dit, ah bah tiens, on va quand même faire un petit tour dans une compétition internationale. Et d'ailleurs, ils l'ont gagné. gagner. Donc à partir de là, la FIFA, pour rendre l'appareil pour les services rendus aux Saoudiens, a accordé le titre de le label FIFA à cette compétition, et il a fallu la caler dans le calendrier. C'est là que Platini a eu l'idée, après le tournoi de France 97, qui avait été une réussite comme répétition de la Coupe du Monde, de dire bah tiens, on va la faire dans le pays organisateur de la Coupe du Monde l'année précédente. Donc effectivement, dans ce cadre-là, elle a un sens, mais il y a eu dans cette histoire plein de ratés. Vous vous souvenez peut-être pas, mais en 99, la France était invitée à défendre son titre de champion du monde, parce que le champion du monde est invité d'office. C'était au Mexique et la France n'y est pas allée. Donc c'était l'Allemagne d'ailleurs qui les avait remplacés au pied levé. Donc c'est très compliqué d'installer dans le calendrier international actuel une nouvelle compétition, et je crois d'ailleurs que la FIFA n'a pas l'intention de la poursuivre, parce qu'on sait qu'en 2026 il y aura 48 pays. Donc là, l'idée, c'était un petit peu de permettre aux champions des continents où il y a peu de place en phase finale de Coupe du Monde de participer à une espèce de mini Coupe du Monde. Là, quand il y aura 48 pays à la phase finale, il y aura plus d'excuses.
Ça va faire peut-être plaisir au Cameroun quand même, qui peut-être qui peut
dans,
voir
qui
un
dans
intérêt,
le groupe de l'Allemagne, qui est en plus dans le groupe de l'Allemagne,
qui peut voir un intérêt dans cette à disputer cette compétition. Mais
moi, je crois que les sélections devraient souvent aligner leurs meilleurs éléments. Ça, c'est normal, parce que généralement en pré-saison, je vois les clubs reprendre les mêmes joueurs. Ils vont faire des tournées en Asie et partout dans le monde pour se faire du pognon. Mais quand il s'agit de la FIFA, on dit non, attendez, c'est que les joueurs sont très très fatigué, mais bon. Mais Joachim Löw, il peut avoir raison, parce que quand même en 2014, en 2013, pour préparer la Coupe du Monde 2014, on a quand même vu que il n'avait pas pris ses meilleurs joueurs, hein, parce que il s'était fait même battre le 2 juin 2013 par les États-Unis, et on disait mais c'est la catastrophe, l'Allemagne ça ne donne pas. Mais par la suite, on a vu qu'il y avait quelque chose. Et aujourd'hui aussi, je voudrais dire que ça peut aussi être un faux fuyant, parce que en même temps, l'Allemagne a perdu beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que vous avez déjà l'avant-centre qui a pris la retraite, vous avez le capitaine Lam qui va prendre qui a déjà aussi pris la retraite, vous avez même Neuer qui lui-même il est blessé, vous avez par exemple là pratiquement un type comme Toni Kroos, il sera épuisé, vous avez Özil qui se bat de l'autre côté de l'Allemagne, vous avez donc ils sont totalement déjà ruinés physiquement. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaye de nouveaux joueurs, parce qu'exactement aussi cette génération qu'on est en train de voir là aujourd'hui, c'est les champions d'Europe espoirs de 2009. C'est-à-dire qu'ils étaient avec les Boateng et consorts des Özil. Ils les avaient pris et tout un chacun disait, mais ils vont où ces jeunes-là? Et subitement, ils sont devenus la superbe, somptueuse équipe qu'on voit. Les joueurs qu'il a convoqués sont des joueurs percutants. C'est pas l'équipe B, comme on peut le dire.
Donc, vous critiquez l'eau et vous le défendez en même temps. Donc,
ah oui, je critique les entraîneurs qui disent qu'ils laissent les meilleurs joueurs. Mais je vous dis, là, actuellement, au niveau de l'Allemagne, ce sont ceux qui sont les titulaires qu'on croyait. Il y a des blessés.
Vous voulez me dire que l'Allemagne, il y a deux équipes, c'est ça?
Voilà, à peu près comme le Real.
En fait, cette Coupe de la Confédération va servir aux Allemands pour faire une liste de 23 cohérentes l'année prochaine. Voilà. C'est-à-dire que les meilleurs de cette Coupe vont compléter l'effectif l'année prochaine. Enfin, peut-être mieux. Certains vont peut-être même jouer, parce que l'Allemagne n'a pas peur de faire jouer des joueurs jeunes. Mais visiblement, cette équipe jeune est surtout faite pour que Joachim Löw, l'an prochain, ait une vision absolument très précise des 23 qu'il veut prendre à cette Coupe du Monde.
En tout cas, le Cameroun ira avec son effectif au grand complet. Hugo Broos a dévoilé une préliste de 30 joueurs cette semaine, et il figure quasiment tous les champions d'Afrique. Évidemment, ça peut être une bonne opportunité pour les Lions Indomptables. Un petit peu déjà.
Ils avaient atteint la finale en 2003.
Voilà,
en 2003 au Stade de France.
Édition de sinistre mémoire, ouais, juste après le décès de Marc Vivien Fouet. Autre compétition internationale, elle démarre demain en Corée du Sud. Il s'agit de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Pas moins de 24 équipes la disputeront, à commencer par la France, vainqueur il y a 4 ans, avec la génération des Pogba, Umtiti et Thauvin. Il y aura aussi l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, l'Angleterre, l'Argentine, l'Uruguay, mais pas le Brésil. Idem pour la Serbie, tenante du titre il y a 2 ans, qui ne sera pas là. Et puis le continent africain sera représenté par 4 équipes. La Zambie, toute récente championne d'Afrique, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Guinée, qui revient après 30 48 ans d'absence. On va d'abord s'intéresser à cette équipe de France qui a remporté donc l'épreuve il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'elle vaut cette nouvelle génération tricolore, Xavier Barré?
Ben, c'est surtout la génération championne d'Europe des 19 ans l'année dernière, ouais, qui composera l'essentiel de cette génération. Je dis bien l'essentiel parce qu'il y aura quand même un joueur important qui manque, c'est Kylian Mbappé,
et oui,
qui est donc lui déjà monté en A et qui jouera avec les Bleus de Didier Deschamps.
Maxime Lopez non plus.
Il manque également Maxime Lopez de l'OM et puis Théo Hernandez également, le jeune défenseur de Deportivo Alavés, enfin de l'Atlético prêté au Deportivo Alavés et qui jouera la finale de la Coupe d'Espagne contre le Barça. Donc il y a quelques absents, mais il y a dans l'ensemble le même groupe. Donc pour l'équipe de France, il y a une très belle carte à jouer en Corée, dans une compétition qu'ils ont remportée, vous le rappeliez, en 2013 avec la génération Pogba, Thauvin, Digne, Kondogbia, Verretou, enfin une Areola. Donc une génération, on voit, dont la plupart des joueurs sont devenus professionnels à un très bon niveau aujourd'hui.
C'est important ce genre de compétition pour l'équipe de France ?
Oui, oui, c'est quand même des repères. C'est quand même des repères importants. L'équipe de France n'a plus rien gagné en espoir depuis des années et des années, ce qui étonne tout le monde puisque la France est un pays formateur reconnu. Donc le véritable révélateur, il est avant. C'est les U20, c'est les U17. Parce qu'en fait, on s'aperçoit de plus en plus. Regardez Mourinho qui a retenu quelques joueurs anglais qui ne participeront pas non plus à cette Coupe du Monde des U20. On s'aperçoit que de plus en plus, en fait, les joueurs passent les étapes très très jeunes. Et donc finalement, la Coupe du Monde des U20, elle rassemble pas vraiment, vraiment les meilleurs, bah parce que certains sont déjà en équipe A. C'est le cas de Mbappé, que Didier Deschamps va garder pour l'équipe A. C'est le cas d'autres joueurs. C'est le cas de joueurs qu'on garde pour disputer une finale de Coupe d'Espagne, qu'on garde pour disputer la finale de l'Europa League pour Mourinho.
Oui, il y a un positionnement dans le calendrier qui est pas idéal.
Oui, le calendrier n'est pas idéal non plus. Et visiblement, dans beaucoup de cas, ça passe un petit peu derrière. Donc, pour répondre à votre question, bien sûr, c'est important pour l'équipe de France, mais on sait tous qu'à cet âge-là, l'important, c'est pas forcément le trophée. L'important, c'est un peu de montrer qu'on a une bonne génération et qu'elle va servir ensuite pour les vrais trophées, ceux qui sont en A, parce que les trophées en U17 et U20, malheureusement, l'Afrique sait que ça ne garantit pas toujours l'avenir.
Alors l'Afrique, justement, les sélections africaines se comportent bien généralement dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Il y a 2 ans, le Mali et le Sénégal avaient pris les 3e et 4e places. En 2013, le Ghana avait pris la 3e marche du podium. Pourquoi cette compétition fonctionne aussi bien pour ces formations africaines et pas pour...
La vraie question qu'on doit se poser pour l'Afrique, c'est pourquoi on gagne énormément de trophées en U17, un peu moins en U20 et plus du tout en A.
Voilà.
C'est ça la vraie question. Et puis surtout, on voit les Nigérians qui ont gagné en U17, on les retrouve à peine en U20 et pas toujours, et on les retrouve jamais en A. Enfin jamais, j'exagère bien sûr, il y en a quelques-uns, mais le taux de renouvellement est tel qu'on est obligé de se dire, bon ben, est-ce que vraiment c'était du U17?
Voilà.
C'est l'éternel problème. On joue sur des résultats qui sont flatteurs, qui sont intéressants. Je vais pas dire que pour une fédération c'est pas neutre que de gagner une Coupe du Monde, même en U17. Mais malgré tout, l'objectif il est pas là. L'objectif c'est d'avoir ensuite une équipe en A. Sinon ça sert à rien.
La Coupe du Monde des moins de 20 ans donc début ce week-end en Corée du Sud. On termine par nos traditionnels cartons.
Carton jaune.
Dieu m'a dit qu'il sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Messieurs les arbitres, c'est à vous pour cette traditionnelle chronique du Café des Sports. Vos coups de cœur, vos coups de griffe de la semaine. On démarre par Xavier Barré.
Oui, ben moi ce sera un carton vert à un certain Dirk Kuyt. Alors c'est pas vraiment un petit jeune homme vert, il a 36 ans, mais il vient de conduire son club formateur, le Feyenoord de Rotterdam, qu'il avait quitté pour Liverpool et auquel il est revenu. Il vient de le conduire au titre de champion des Pays-Bas. Et ça fait plus de 10 ans que Feyenoord n'avait pas été champion. Et c'est un bel événement et c'est surtout un bel exemple qu'il montre, parce que Dirk Kuyt, il a toujours eu une carrière exemplaire. Il était probablement pas assez doué pour jouer en pointe, donc il a petit à petit reculé dans un rôle de milieu de terrain, toujours dévoué pour le collectif. Et donc là, il a réussi à mener son club formateur à ce titre. C'est un bien bel exemple.
Et il arrête. Et en plus, il arrête. Donc c'est un vrai coup de chapeau.
Et le dernier à avoir fait ça, d'ailleurs, aux Pays-Bas, c'est un certain Johan Cruyff.
Alejandro
Valente. Votre carton.
Moi, je vais être un peu chauvin. Je vais donner un carton vert à Marcelo Gallardo, qui continue à faire des miracles à River Plate.
L'entraîneur.
Dimanche dernier, River a battu Boca Junior à la Bombonera 3-1. Donc, c'était une très belle prestation, malgré un calendrier surchargé. Hier, ils se sont qualifiés premier de leur groupe pour les huitièmes de finale de la Coupe Libertadores. Donc bravo à lui, car les moyens ne sont pas extraordinaires chez les millionnaires de Buenos Aires.
Un carton très objectif, donc. Philippe Doucet.
Un carton vert aussi, disant qu'est-ce qu'on est gentil aujourd'hui, c'est terrible. Un carton vert également, parce que je préfère, plutôt que de parler des échecs, de l'échec qui est pas tant, mais du Paris Saint-Germain, je trouve que c'est mieux de donner un carton vert à Monaco. C'est un véritable exploit que d'être champion de France, d'interrompre un règne de 4 ans, alors que le PSG est toujours là, a toujours des gros moyens. Que Monaco soit devant sur 38 journées, c'est un véritable exploit, et en plus ils ont montré un football de grande qualité tout au long de l'année.
Le 8e titre de champion pour l'AS Monaco, 17 ans après. Rémi Mingono.
Triple carton vert adressé par tous les fans de ma page Facebook Mingono officiel à Samuel Eto'o et Drogba, bien évidemment, qui déjà ont eu à offrir à leur pays respectif des centres hospitaliers dignes de ce nom pour les démunis. Donc, c'est des cadeaux comme ça. Et puis, surtout aussi, un bon carton vert donc à celui qu'on appelle George Weah, qui maintenant a officialisé sa candidature pour la présidence au Libéria. Et je voudrais bien qu'on le soutienne et non qu'on dise toujours que non, les footballeurs ne doivent pas être des politiciens, les footballeurs ne sont pas assez intelligents, mais pourtant c'est des footballeurs qui donnent de l'argent aux politiciens qui font développer le pays, comme le dit un proverbe africain, on insulte la vache qu'elle n'est pas intelligente, mais pourtant on se nourrit de son lait pour être fort et intelligent.
Georges Weah, que Annie Gasny a reçu cette semaine dans Radio Foot International. Et puis le carton de Radio Foot, il est d'une face vert, de l'autre un peu jaune-rouge. Il est pour Kylian Mbappé qui, lui, n'a pas voulu fêter le titre de champion avec l'AS Monaco. Il a préféré aller se coucher, se reposer. C'est un petit peu dommage. Effectivement, on peut louer son professionnalisme.
Trop sérieux.
Mais trop sérieux. Il a 18 ans, c'est un gamin, c'est son premier grand titre. Il faut qu'il se lâche un petit peu et qu'il en profite. Bref, en tout cas, il nous épate, ce garçon. Merci, c'est déjà fini. Louis Lafargue, Guillaume Ploquin m'ont aidé à préparer ce numéro. À très bientôt. Bon week-end.